Il est 15h04 sur Transistor et on retrouve l'équipe d'Il était une science.
Il était une science.
Bonjour chers auditeurs. Pour ce nouveau numéro d'Il était une science, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés non pas seulement un, mais deux intervenants et interlocuteurs scientifiques, Rémi et Léo, respectivement informaticiens et biologistes de leur état, nul n'est parfait. C'est donc avec une certaine émotion que je les laisse prendre le relais de mon physicien préféré, Nicolas, fondateur de cette émission manifestement appelée à se pérenniser et à se diversifier. Alors attention Léo et Rémi, je vous attends au tournant. Bienvenue donc à l'antenne, à mes acolytes, mais également aux auditeurs, pour ce premier numéro d'Il était une science, nouvelle version.
Il était une science.
Et pour ce numéro d'un Il était une science nouvelle version, ou 2.0 si j'ose dire, Léo, Rémi et moi sommes parfaitement dans les clous, puisque c'est au sujet du code que nous allons nous intéresser. Mais Rémi, qu'est-ce que le code tout d'abord? Est-ce, comme l'amateur que je suis s'aventurerait à le dire à l'instant, l'apanage de l'époque d'Internet et de l'ère du numérique? N'y a-t-il de code que 2.0?
Eh bien, pas du tout, Pauline. Pauline, je suppose que tu as déjà été à l'école primaire, par exemple, et qu'avec tes petits camarades, tu as déjà voulu échanger des messages sans que la maîtresse ne puisse les lire.
Ah ou... non, moi jamais.
Non, jamais.
J'étais très très sage, moi.
Tu n'as jamais pensé à... Léo est là, il nous sauve.
Ah bah oui.
Tu as forcément déjà pensé à des méthodes pour coder ces textes. Et généralement, oui. C'est toujours la même méthode qui vient à l'esprit. Le fameux codage de César que tout le monde connaît. Ah, et bah, qui écoute, historiquement est aussi l'un des premiers à avoir été inventé par César du coup. C'est très simple, il suffit de décaler l'alphabet. C'est-à-dire que si on fait un décalage de 3, le A sera remplacé par un D, le B par un E et ainsi de suite. De sorte que...
Et c'est toujours un décalage de 3 qu'il faut
alors,
faire.
Pas forcément, il se trouve que César utilisait un décalage de 3.
On mais, peut mais César, faire... César. Enfin,
César, César.
César,
César.
Le
vrai César.
Le César.
Ah, c'est... En fait, quand on rend à César ce qui est à César, si on lui rend un code. Non. Ah non, c'est très mauvais ce que je viens de
pas
dire.
Pas forcément. Donc voilà, ce premier code, le code de César, consiste en un décalage des lettres. Alors, à peine plus poussé, au lieu de simplement décaler l'alphabet, on peut aussi associer à une lettre une autre lettre sans que ça soit un décalage. Je décide que le A sera remplacé par un K, que le B sera remplacé par un W, que le C sera remplacé par un C, parce que pourquoi pas, et ainsi de suite. Et à condition que à chaque lettre corresponde une seule et unique lettre dans les deux sens, je pourrai coder un message en un message codé et décoder un message codé en un message clair. C'est ce qu'on
d'accord.
appelle la cryptographie, écrire dans un langage codé.
D'accord, ok. Je crois que j'ai à peu près compris ce que tu as dit. Tu n'as pas trop parlé en langage codé, donc ça, c'est cool.
Voilà.
D'accord. Mais alors, bon, le code de César, là, ça s'est cassé relativement vite. Enfin, je veux dire,
alors, pas tant que ça, en fait.
Tu parles de cryptographie, mais du coup, j'imagine qu'avec la cryptographie, c'est développé les casseurs...
La cryptanalyse.
D'accord, ok.
C'est la branche qui est associée à la cryptographie et qui consiste justement à casser les codes. Et le code de César n'a pas été cassé si vite, ou en tout cas de façon systématique. Et tous les codes qu'on appelle monoalphabétiques, c'est-à-dire on prend un alphabet et on le remplace par un alphabet, n'ont été cassés finalement que par les mathématiciens arabes du Moyen-Âge, qui ont inventé et formalisé ce qu'on appelle l'analyse des fréquences. Ils se sont rendus compte que dans une langue, il y a des lettres qui apparaissent avec une plus grande fréquence que d'autres. En français... On sent bien qu'il va y avoir plus de E que de Z dans un texte lambda.
D'accord.
Ça paraît logique.
Voilà. Sauf avec des cas un petit peu cliniques, comme dans la disparition de Georges Perec, qui là peut poser de très gros problèmes, parce que justement, le E n'y est pas. Et c'est ça la méthode. C'est trouver la lettre qui est très fréquente. C'est-à-dire que si, en codant, vous remplacez votre E par un T, dans le message codé, le T sera très fréquent.
D'accord.
Et si le T est très fréquent, vous pourrez en déduire qu'il y a des chances pour que ça soit un E.
D'accord.
Et en faisant des statistiques comme ça sur le texte codé, à condition que ce texte codé soit assez long pour qu'on puisse avoir des bonnes fréquences, vous pourrez réussir sans aucun problème à décoder ce message. Et cette analyse des fréquences a donc cassé le code de César et a posé de sérieux problèmes aux cryptographes qui ont été chargés d'inventer un nouveau code, du coup. Et ça leur a pris quelques siècles aussi,
d'accord,
d'inventer un code qui soit réellement nouveau. Il y a eu plein de petites adaptations, mais pas de vraie innovation jusqu'au XVIe siècle.
D'accord, jusqu'au XVIe siècle. Mais alors du coup, ça consistait en quoi?
Alors au XVIe siècle, c'est un Italien, monsieur Wigner, qui a inventé le fameux code de Wigner. Le carré de Wigner et ce code, le fameux chiffre indéchiffrable qui a résisté aux cryptanalystes jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe. Le principe est d'adapter le code de César en effectuant, en gros, en créant un nouveau code de César sur chaque lettre du mot codé. Je vais prendre un exemple très très simple.
Merci.
Supposons que c'est un code qui marche avec une clé. C'est-à-dire que les deux personnes qui échangent le message codé doivent convenir d'une clé. Supposons que notre clé soit Pauline.
Oh.
Alors,
je suis toujours la clé.
Quand je veux coder mon message, je prends la première lettre du message, qui est par exemple un B. En P est la 18e lettre de l'alphabet. C'est la première lettre de notre clé, c'est la 18e. Donc sur la première lettre de mon message, je vais effectuer un décalage de 18.
D'accord. Oui,
est la première lettre de l'alphabet, la 2e lettre de la clé. Donc sur la 2e lettre de mon message, je vais effectuer le décalage qui correspond à A, c'est-à-dire un décalage de 1. Et ainsi de suite. Et quand j'arrive à la fin de la clé, eh bien je recommence avec le début de la clé, de sorte que le code varie à chaque lettre.
D'accord, mais alors attends, à la fin, t'as un code qui est plus long que ton texte, non? Enfin, je sais pas, la clé, elle doit être très très...
On répète la clé, en fait, dans le texte.
Non, la clé n'est pas répétée dans le texte codé, puisque les deux interlocuteurs ont échangé la clé.
Ah, d'accord. Et comment ils ont échangé exactement
la
clé?
Alors, c'est là le principal problème de ce code et de toutes ses variantes, c'est qu'il faut échanger la clé au préalable. Oui. Et ça, c'est un problème qui ne sera résolu que dans la deuxième moitié du XXe siècle. J'y reviendrai.
J'aime quand on respecte la chronologie.
Mais on va respecter la chronologie parce que Wigner a donc été amélioré entre-temps avec des techniques qui consistent à prendre une clé aussi longue que le texte.
Le masque jetable, il me semble, ça porte comme nom.
Alors, il y a le masque jetable, en fait, il y a une tonne de variations. Mais on est allé jusqu'à une méthode où l'on prend une clé aussi longue que le texte. Parce qu'en fait, l'analyse des fréquences continue à s'appliquer au code de Wigner, à condition qu'on connaisse la longueur de la clé. On sait que si la clé, par exemple, est de longueur 7, on sait que toutes les 7 lettres, on a eu le même décalage.
Oui, bien sûr.
Puisqu'on revient à 0. Du coup, il suffit d'appliquer l'analyse des fréquences toutes les 7 lettres.
D'accord.
Et on se retrouve exactement dans la même situation qu'avec un code de César.
D'accord.
Du coup, avec une clé aussi longue que le texte, on n'a plus aucune répétition de clé, mais le problème, c'est qu'il faut se transmettre une bonne fois pour toutes d'une clé très très longue, d'une part, et d'autre part, il y a des mathématiciens qui ont quand même réussi à appliquer une analyse des fréquences en utilisant des probabilités, et en imaginant qu'un mot très très courant comme « une » ou « les » était placé aléatoirement dans le texte, et en répétant des opérations mathématiques, ils réussissaient à trouver des endroits où ces mots étaient vraiment placés. De sorte que finalement, le code de Wigner, même avec toutes ses améliorations, était cassé. Au milieu du XXe siècle, on était un petit peu embêté.
D'accord. Et donc, au milieu du XXe siècle, on est embêté.
On est embêté aussi par la situation politique, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale au milieu du XXe siècle.
Ah oui, il y a ça.
Enigma.
Voilà la machine Enigma. Il y en a un qui suit, c'est bien.
C'était pour laisser l'énigme aux auditeurs.
Les Allemands ont une super machine qui code des messages. La fameuse machine Enigma, tous ceux qui sont allés voir The Imitation Game il y a un an savent de quoi je parle. La machine Enigma, c'est une machine avec des câbles qui sont câblés de façon bizarre dans la machine. Il y a des rotors qui tournent et ça met en correspondance une touche du clavier avec un petit voyant de l'écran, de sorte que quand on appuie sur le clavier, il y a une lettre qui s'affiche, mais selon un mécanisme très complexe, qui, en gros, implémente un codage de Wigner complexifié à l'extrême, de sorte qu'il y ait vraiment des millions de possibilités différentes à tester, et ça devient complètement impossible.
D'accord, impossible à tester, y compris pour une machine ou...
Impossible à casser, en tout cas pour un être humain, parce qu'en effet, au milieu du XXe siècle, on a également ce monsieur Turing, qui est connu pour avoir cassé le code Enigma, mais alors casser le code Enigma, c'est une importance historique monstrueuse, mais ses travaux sur le code Enigma ont également été à l'origine d'une discipline qu'on appelle l'informatique.
Ah oui, cette chose-là.
Voilà.
Aussi, le code Enigma avait... le code en soi avait ses failles, mais il y avait aussi les failles des messages qui étaient envoyés. C'est-à-dire qu'il me semble que les textes qui étaient envoyés par le... les messages qui étaient envoyés via Enigma, déjà avant des messages qui commençaient par notamment les rapports météo,
c'est grâce à ça que Turing a réussi à casser le code Enigma. C'est parce que les messages,
mauvaise mention pour l'allemand là, hein.
C'est parce que les messages se ressemblaient.
J'ai arrêté l'allemand il y a 2 ans.
Et du coup, en jouant toujours sur certaines répétitions dans le message, on parvient, en tout cas après un traitement informatique du coup très compliqué, que je ne peux pas décrire ici, et que je ne connais pas d'ailleurs.
Pour nous faire comprendre que nous sommes des idiots.
Que je ne connais pas non plus. On peut arriver à casser Enigma. Alors, on arrive dans les années 70, et on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer. Et là, on a quelques mathématiciens de génie qui vont nous inventer coup sur coup 2 méthodes de codage qui, combinées ensemble, font un code qui, pour l'instant, échappe à toute tentative de le casser.
Mm-hmm. On commence
avec le système, avec les différentes variantes du système clé publique, clé privée. Le premier a été inventé par messieurs Diffie et Hellman dans les années 70. Alors voilà, supposons que Alice veuille communiquer avec Bob. On parle toujours d'Alice et Bob en cryptographie, c'est comme ça.
D'accord.
Alors, je vais vous donner une petite métaphore qui explique bien la chose. Supposons que Alice et Bob veuillent échanger une clé. Mm-hmm. Une clé, tout ce qu'il y a de plus physique. Mm-hmm. Bon, Alice prend une petite boîte, elle met la clé dedans, et elle la ferme avec un cadenas qui correspond à une autre clé. Mm-hmm. Elle envoie cette boîte à Bob. Bob ne peut pas l'ouvrir, il n'a pas la clé.
La clé de la boîte.
Voilà.
Où il y a la clé.
Oui, où il y a n'importe quoi dedans, en fait, où il y a quelque chose à échanger.
D'accord.
Ça devient Inception, là.
Bob rajoute un propre cadenas à lui dessus.
Non, mais non plus, c'est pas bon, Inception.
Bob rajoute donc son propre cadenas dessus, le renvoie à Alice. Alice récupère une boîte avec 2 cadenas.
Oui.
Elle peut en ouvrir un, le sien. Oui. Elle l'enlève. Elle renvoie la boîte à Bob. Et Bob reçoit une boîte où il n'y a plus que son propre cadenas dessus, qu'il n'a plus qu'à ouvrir pour obtenir le contenu de la boîte.
D'accord.
Ça, c'est la méthode de Diffie-Hellman, et c'est extrêmement efficace. C'est le système clé publique, clé privée, parallèle. Ensuite, Rives, Chamir et Haldeman mettent en place le système RSA, donc qui porte leurs initiales.
RSA ?
Oui, RSA.
Et... Ça me rappelle d'autres choses, mais... Pardon.
Certes. Et qui consiste en un système assez similaire, cette fois-ci asymétrique, qui repose sur la factorisation en nombres premiers. Mm-hmm. Alors les nombres premiers, vous savez, c'est ces nombres qui n'ont pas de diviseur, en gros, à part 1 et lui-même. Mais c'est
3, 5, 7.
Voilà, 3, 5, 7, 11 et 11. Et on continue ainsi jusque très loin, puisqu'il y en a une infinité.
J'invite nos auditeurs à aller écouter Danse avec les maths, premier numéro, ils auront tout. Hein, voilà.
Eh bien, quand on a un nombre, quand on prend 2 nombres premiers très très gros, quand on les multiplie entre eux, on obtient un nombre qui n'est pas premier. Et c'est quasiment impossible, ou en tout cas c'est statistiquement impossible, même à un ordinateur surpuissant, de récupérer les 2 nombres premiers qu'on avait au début. Quand vous multipliez 3 et 7, vous avez 21, très vite vous devinez que 21 c'est 3 fois 7. Quand vous prenez des nombres monstrueux, cette opération devient quasiment impossible.
D'accord, mais même pour un ordinateur
Même pour un ordinateur, il lui faudrait la durée de vie de l'univers.
D'accord.
Et du coup, le code repose sur ce fait. Et on met en place une clé publique, une clé privée, c'est-à-dire qu'il y a finalement 2 clés. Une qui sert à coder, une qui sert à décoder. Mm-hmm. La clé publique, celle qui sert à coder, tout le monde peut coder le message, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que personne puisse décoder. Eh bien, la clé publique, c'est le produit des 2 nombres, à partir duquel on ne peut rien faire. Mm-hmm. En fait, il servira à coder. La clé privée, c'est les 2 nombres de base.
D'accord.
Cela, c'est juste la personne qui c'est les personnes qui s'échangent les messages qui la gardent.
Qui la gardent et qui se le sont
échangés grâce au système de Diffie et Hellman.
D'accord.
Et en utilisant ce système, eh bien pour l'instant, les cryptographes ont le dessus, mais la balle est dans le camp des cryptanalystes qui inventent l'ordinateur quantique dont on aura peut-être le temps de reparler.
Thank you.
Vous aurez reconnu, chers auditeurs, et j'en suis certaine, cinéphile chevronnée, une des musiques du film adaptée d'un célèbre roman dont l'auteur a fait du code de ses mystères et de son historicité intrinsèque un véritable fonds de commerce, Da Vinci Code de Dan Brown. Des Templiers à aujourd'hui, de Paris à une chapelle perdue dans la campagne de province, ce roman en a captivé plus d'un et remporté un succès fou, semblant démocratiser une passion déjà ancienne, mais longtemps réservée à quelques savants et spécialistes, la cryptographie ou la cryptanalyse, comme nous l'a si bien évoqué Rémi. Pourtant, le code, loin s'en faut, n'a à l'heure actuelle plus grand-chose d'ésotérique, puisque nous en parlions tout de suite, nous disions finalement que grâce à Turing et sa machine, avait été mis en branle quand même une discipline fondamentale à partir de la seconde partie du XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, évidemment, l'informatique. Or, il me semble, enfin après je pense que les scientifiques autour de moi ne me désavoueront pas, il me semble que l'informatique, quand même, peuple notre quotidien. Enfin, je veux dire, Rémi, c'est ta spécialité.
Le mien, a fortiori.
C'est ta spécialité. Mais justement, ce qui est intéressant, me semble-t-il, quand on dit code, c'est que tout de suite, on pense à cryptographie, cryptanalyse, on pense, on va dire, choses très compliquées qu'il faut arriver, enfin des mystères qu'il faut arriver à percer, ça fait aujourd'hui rêver plein de gens. Et pourtant, finalement, le code, à la base, ce n'est jamais qu'une opération, si j'ose dire, une opération de langage pratiquement, de linguistique un peu universelle. Et finalement, ce n'est jamais qu'une compétence de plus qui devrait faire partie du bagage de tout un chacun.
Et d'ailleurs, les outils qu'utilisent les informaticiens pour parler de code sont des outils qui ont été développés essentiellement par Noam Chomsky, donc dans les années 50, qui est un linguiste.
Oui,
des outils développés pour la linguistique, que les linguistes ont un petit peu abandonné depuis d'ailleurs, et qui servent maintenant quotidiennement en informatique.
Oui, c'est la grammaire générative.
Entre autres,
de Noam Chomsky.
Toute la théorie des langages.
Bien sûr.
Pareil, en biologie, les linguistes utilisent les arts phylogénétiques en biologie, donc des choses qui viennent de biologie pour retracer l'origine des langues. Donc il y a beaucoup de ports entre les trois matières. Pareil, on utilise beaucoup l'informatique en biologie, la bioinformatique. C'est vrai que les trois matières échangent beaucoup leurs outils.
Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait coder à part justement les informaticiens, me semble-t-il. La programmation, ne fait pas partie
d'un bagage de base. Et c'est particulièrement problématique dans un monde où elle nous entoure. Elle nous entoure complètement et où l'on se rend compte lors de divers scandales, comme il y a pu en avoir quelques-uns récemment, que c'est un enjeu démocratique fort. C'est-à-dire que savoir protéger des données dans notre monde où tout est donné, où tout est information et où la vraie valeur marchande, c'est l'information, eh bien, c'est primordial. Et c'est pour ça que les enjeux de société que pose la cryptographie, entre autres, mais tout ce qui concerne le code, sont vraiment très très importants. Et dans cette mesure, enseigner le code au sens général et pas seulement bricoler un ordinateur est vraiment fondamental.
Et cela dit, en même temps, enseigner le code, savoir bien sûr le faire, mais également avoir le recul dessus. C'est-à-dire que, notamment tout ce qui concerne ce qu'on appelle les digital studies, ou justement la linguistique concernant la linguistique d'écran, ce qu'on appelle aujourd'hui la linguistique d'écran, a été réfléchi le fait qu'aujourd'hui, on est des insérés du numérique, voire pour certains des natifs du numérique, des gens qui, par exemple, seront peut-être codés avec HTML, entre autres, ou en tout cas utiliseront Internet et l'informatique tout le temps, et on a cette pratique en fait qui est vraiment incorporée. Et cela dit, même les informaticiens, ou en tout cas pas tous, et les profanes encore moins, nous n'avons pas de recul en fait sur la pratique, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'usage. Et là je fais référence notamment à une chercheuse qui s'appelle Zemmer et qui a montré à quel point nous avions une culture informationnelle mais qui n'était pas en fait vraiment réfléchie, ce qui fait que nous avons des pratiques sans avoir d'usage et nous ne sommes pas des lettrés en fait du numérique. Alors que nous sommes passés finalement des mondes du livre, de cette technologie de l'esprit, au monde du numérique. Il y a une coupure qui est peut-être semblable à l'introduction d'abord de l'écriture et puis de l'imprimerie, une rupture anthropologique fondamentale. Sans que nous ayons développé encore les outils pour réfléchir à tout cela. Ce que je me dis, c'est qu'au final, si les humains sont aujourd'hui devenus ce qu'ils sont devenus, c'est bien en grande partie grâce à ces fameuses technologies de l'esprit, dont parle, je disais, Zemmer, mais également avant elle, Zimondon, qui a pensé l'extériorité technique de l'homme et qui nous soutient que finalement l'homme est fait, fait intrinsèquement partie d'une vie technique et qui la technique est sa prolongation en fait. Donc avant Zimmer, il y avait Zimondon, mais il y a aussi Stigler hein, qui est très connu pour ses recherches sur ce qu'on appelle aujourd'hui la digiracy, c'est-à-dire la littératie du numérique. Et plus récemment encore, justement, Dominique Cardon, qui est auteur de La démocratie numérique, d'ailleurs, que je conseille fortement à nos auditeurs, et également auteur d'un livre qui s'appelle À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l'heure des big data, justement, pour reprendre cette importance des données dont je parlais tout de suite, et qui est paru cette année au Seuil. Mais bon, pour vous reposer un peu de cette débauche de raisonnement, de réflexion et de référence, chers auditeurs, je vous laisse rêvasser, justement, à l'écoute de la musique originale d'un film de circonstances et de choix, The Imitation Game. En fait, pour justement reprendre ce qu'on disait tout de suite sur l'importance de l'extériorité technique de l'homme selon Zimondon, etc., ce qui est intéressant dans toutes les réflexions contemporaines sur le poids de l'informatique et du numérique sur l'évolution de l'homme, c'est cette idée selon laquelle finalement nous reprogrammons en même temps notre esprit, nos facultés mentales, bien disons, à mesure que nous pratiquons l'informatique. Avec une, par exemple, notamment au niveau cognitif, le développement de nouvelles compétences, avec une lecture plus sélective, tabulaire, etc. Et je me disais, ça a vraiment un impact sur la biologie, enfin le code, c'est quelque chose qui doit être relativement important, j'imagine, aussi en biologie, dans le vivant en général.
Alors oui, c'est vrai que quand on parle de code, on pense tout de suite aux codes informatiques, aux ordinateurs, ce genre de choses.
Bien sûr.
Les codes en biologie, il y en a énormément. Et donc, ils peuvent paraître très simples, mais ils peuvent donner lieu à des actions très complexes. Donc, ils interviennent à tous les niveaux, à l'intérieur de nos cellules, dans notre corps, entre individus, entre espèces différentes. Ça peut aller d'une variation de concentration d'une substance à un comportement entier d'un troupeau d'animaux, par exemple. Donc, pour prendre justement un exemple, quelqu'un vous fronce les sourcils et vous regarde fixement, vous l'interprétez généralement comme un signe de menace. Et bien, on vous fait passer par un code un message. Donc, ce sont les codes comportementaux. C'est la même chose quand vous tentez de caresser un chien et que le chien grogne. Généralement, le cerveau comprend bien le message que vous ne devez pas le toucher.
J'ai l'impression que tu me grognes dessus.
Mais non, je suis très gentil, moi. Alors, il est à noter que ces codes ne sont pas universels. Par exemple, chez l'homme, quand l'homme sourit, ça vous paraît amical. Par contre, chez le singe, qui est pourtant notre cousin le plus proche, eh bien, c'est un signe de défense. Et si en plus il montre les dents, c'est un signe de peur.
D'accord.
Alors il faut aussi noter que ces codes passent par la couleur. Par exemple, des grenouilles qui vivent dans la forêt tropicale en Amazonie, alors elles arborent de très jolies couleurs, bien pétantes, tout sauf discrètes. Par exemple, il y en a certaines qui sont jaunes et noires. Ça se loupe pas vraiment. Hein. En fait, c'est le but, parce que ces grenouilles, en fait, elles affichent leur dangerosité. C'est-à-dire que leur peau, elle sécrète un mucus extrêmement vénéneux, qui est épouvantablement toxique, pour quiconque ose les toucher ou les manger. Et donc, il faut noter que ces codes sont aussi repris par d'autres animaux. Parce que, par exemple, d'autres grenouilles qui, elles, n'ont pas la capacité de synthétiser ce mucus vénéneux, eh bien, elles vont imiter ces couleurs, pour pouvoir être confondues avec celles qui le sont. Donc pour ne pas être mangé par leurs prédateurs. Et donc ça porte un nom en écologie, c'est ce qu'on appelle le mimétisme batésien.
Oula.
Voilà.
Un peu trop savant, je suis pas sûr de le retenir. Hein, mais...
Non, bah, c'est vrai que bon, on aime bien mettre des noms complexes sur les choses en biologie.
Alors... Moi aussi.
Voilà, toi tu mets du vocabulaire compliqué, mais moi je parle bien anglais.
Oh oui, oh ça va. Alors après, quand on parle de code en biologie, on pense surtout aussi au code génétique. C'est-à-dire le code qui fait le lien entre l'ADN, l'information de la cellule et la séquence des protéines qu'elle produit. Alors, pour faire un petit rappel sur les protéines, donc en plus d'être une mention sur la plupart des étiquettes alimentaires, ce sont des molécules de taille très variable qui sont une suite de composants encore plus élémentaires que l'on appelle les acides aminés, les fameuses briques du vivant que l'on cherche ardemment dans l'espace. Alors, donc ces protéines, elles servent à tout, à digérer, à ce que vous mangez, à structurer vos cellules, à transporter le fer. Bref, elles servent vraiment à plein de choses. Et donc, en fait, le code génétique se base donc sur les quatre bases azotées que compte l'ADN, donc l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et donc ces quatre bases sont reconnues et sont par paquets de trois, donc que l'on appelle des codons. Et donc à chaque codon correspond un acide aminé précis.
D'accord.
Et donc, lorsqu'il y a les... donc par exemple, pour vous donner un exemple, si vous avez le codon AUG, cela codera l'acide aminé que l'on appelle la méthionine.
D'accord.
Rien que ça.
Donc voilà, donc c'est un système donc qui est reconnu lors de la traduction des protéines par la cellule. Et donc ce système, donc il y a des codons assez spécifiques. Donc par exemple, il y a certains codons qui interrompent, qui veulent dire stop, tandis que d'autres veulent dire start, c'est-à-dire qu'on commence la séquence. D'autres stop, on l'arrête.
Et il est à noter. Stop. Bien voilà. Souvenir.
Voilà, et donc il est à noter, donc si vous faites le calcul, on a 4 x 4 x 4, 64 possibilités de codons, mais on n'a que 20 acides aminés. Donc ce code, donc pour chaque codon, on peut avoir, plusieurs codons peuvent donner ainsi le même acide aminé, donc ce qui est une caractéristique du vivant. Donc vous voyez, il y a plein d'autres codes, donc bon, les informations neurales, les informations hormonales, bref, le monde des codes du vivant est très développé.
Bref, le code, c'est infini, mais oui. Le code, c'est aussi la base de la réalité. La réalité, en somme, donc... plus que jamais, il importe de maîtriser le code.
Oui.